Bonjour, bonjour. Toute l'équipe de Comaguerre, de retour de manifestation contre la réforme du régime des retraites, vous retrouve volontiers sur l'antenne et dans le studio de Radio Galère. Donc j'ai nommé, dans l'ordre, Roselyne Dreby, technicienne de plus en plus émérite, qui est au pupitre, Habib, qui est à mes côtés, et Bernard, donc, qui est là. Donc, retour de manifestation, grosse manifestation à l'égal de celle de la semaine dernière, il n'y a pas de doute là-dessus. Et il va falloir, bien entendu, que le mouvement continue et même s'amplifie, puisque nous avons affaire à un gouvernement têtu comme une borne, on l'a dit, c'est pas moi qui l'ai dit. Bon, le jeu de mots est facile, mais c'est exactement de ça qu'il s'agit. À propos de ce débat parlementaire, puisque débat parlementaire qu'il y a, je voudrais revenir sur un point qui est un point de droit constitutionnel. On vous dit qu'il s'agit de faire voter par l'Assemblée nationale et par le Sénat, et puis retour, une modification à la loi de financement de la sécurité sociale. Or, il s'agit, alors je vais vous expliquer de quoi il s'agit, effectivement d'une déformation et même carrément d'un viol de la Constitution, de l'article 47,1 de la Constitution, qui a été réformé en 2008 et qui est toujours dans cet état-là, parce que on ne peut pas, alors je vous explique, la Constitution de la France a organisé depuis 1996 le fait que chaque année, le Parlement est saisi, à la césure d'automne, de deux budgets, le budget de l'État d'un côté et le budget de la sécurité sociale de l'autre. Ces deux budgets doivent être exécutés avant le 31 décembre de l'année pour pouvoir... Elles doivent être votées, pardon, avant le 31 décembre de l'année pour pouvoir être exécutées dès le lendemain matin. Le 2 janvier, le 3 janvier, la sécurité sociale a des dépenses, l'État aussi, etc. Bon, ça, c'est la loi. Bon. Et donc, en fait, l'article 47.1, dont je vais vous lire le début, prévoyait que au cas où, et ça vaut exactement de la même façon pour le budget de l'État, au cas où arrivait le 1er ou le 2 janvier, le gouvernement constate que les deux budgets n'ont pas été votés et que donc ils ne peuvent pas être exécutés, puisqu'il n'y a pas de vote, donc l'État n'est pas autorisé à engager des dépenses, puisque le Parlement n'a pas été d'accord sur le budget. Bon. Et donc l'article 47.1, il était destiné uniquement à ça, c'est-à-dire dans l'urgence, dans la mesure où la loi de financement de la sécurité sociale n'était pas votée avant le 31 décembre, introduire l'idée d'une procédure accélérée dans laquelle le gouvernement s'est mis aujourd'hui pour que finalement cette loi soit mise en vigueur le plus rapidement possible. On n'est absolument pas dans ce cas de figure, c'est-à-dire qu'il y a un viol caractérisé de la Constitution de la République française. Le budget de la sécurité sociale, la loi a été votée dans les délais, dans les derniers jours de décembre. Le Conseil constitutionnel l'a validé avant le 31 décembre. Cette loi est exécutable. Elle est exécutée, d'ailleurs, depuis le 1er janvier 2023. Donc venir nous raconter qu'on est en train d'y ajouter un article, il n'y a rien à ajouter. Cette loi, elle est fermée, elle est bouclée, elle est définitive et elle s'exécute. Donc il s'agit d'une gigantesque manipulation pour faire passer très très vite un projet de loi qui n'a pas de rapport. Pourquoi il n'a pas de rapport? Alors effectivement, l'âge de départ à la retraite et le nombre d'annuités pour la toucher à taux plein, c'est de la sécurité sociale. Mais les lois de financement de la sécurité sociale, qui sont donc organisées dans le cadre de la Constitution et de cette loi et de cet article 47,1, ces lois donc sur la sécurité sociale sont annuelles. On ne peut retoucher. Alors imaginons qu'effectivement, il y a un article qui est manqué dans le vote vers la fin décembre par le Parlement et que vite, vite, on fasse passer un article supplémentaire où il y a une erreur de rédaction. Bon, très, très vite, on fait passer une rectification. Là, il ne s'agit pas du tout d'une rectification de la loi de finances. Dans la loi de finances de 2023, le financement de la sécurité sociale, il est clairement écrit quel est le budget de la Caisse nationale d'assurance vieillesse. Il est clairement écrit les dépenses possibles, les recettes possibles. Et cette même loi a validé les budgets définitifs de l'assurance vieillesse et des autres, de l'assurance maladie, pour 2022 et 2021. La loi de financement de la sécurité sociale, ça n'a le droit de faire que ça. Ça n'a pas le droit de modifier l'âge de la retraite. Il s'agit d'un viol manifeste de la Constitution. Pourquoi le gouvernement prend ce risque ? parce que, nous dit le petit Emmanuel, parce que j'avais mis ça dans mon programme. Mais dans ton programme, tu n'as jamais écrit, parce que tu ne pouvais pas l'écrire, que tu allais violer la Constitution. Tu n'as pas ce culot-là, hein, mais tu le fais quand même. Tu n'annonces pas que tu violeras la Constitution, mais tu le fais. C'est ce que tu es en train de faire. La Constitution est violée. Bon. Alors vous allez vous rassurer en disant « Oui, mais les députés, alors je ne sais pas lesquels, j'attends des réactions de ce côté-là, les députés vont saisir le Conseil constitutionnel. » Oui, peut-être, peut-être. Alors ils vont peut-être le faire, mais alors regardez un petit peu la constitution du Conseil constitutionnel. Vous savez qu'il y a les 9 membres, alors on les appelle les 9 sages. Bon, soyons gentils, laissons-leur le titre jusqu'à preuve du contraire. Mais enfin, il y a dedans à la présidence un certain Laurent Fabius, qui ne s'est pas manifesté comme un personnage très très militant et très à gauche. Je ne vais pas m'étendre. On a un certain Alain Juppé, qui du point de vue de l'âge de la retraite et de la sécurité sociale a plutôt été dans les brutes, soyons clairs. Il y a 2 autres personnages qui ont été ministres beaucoup moins longtemps dans des plus petits cabinet, donc qui sont chez au MoDem ou dans des coins comme ça. Bon, mais en fait, les 2 poids lourds politiques, ceux qui ont vraiment une figure politique, c'est ces 2-là. Et moi, je n'attends rien de ces 2 personnages. C'est-à-dire que j'ai bonne raison, hélas, de me désespérer du fait que si jamais il y a un recours devant le Conseil constitutionnel par rapport à cette loi qui ne devrait pas être mise au débat, parce qu'elle n'a pas lieu d'être au moins sous ce titre-là, je ne pense pas que le Conseil constitutionnel prenne le risque de dire qu'il n'en veut pas. On verra. Mais je n'ai pas trop d'espoir de ce côté-là. Le Conseil constitutionnel est en train de s'affaiblir. Ce n'est pas le seul cas. Je signale, par exemple, puisque je parle de la loi de financement de sécurité sociale 2023 qui a été approuvée, je crois, le 30 ou le 31 décembre par le dit constitutionnel, ce Conseil constitutionnel a validé une loi qui comporte des amendements ajoutés in fine par le gouvernement qui n'ont pas été soumis au vote de l'Assemblée. C'est-à-dire qu'il a validé un texte qui n'a pas l'aval de la représentation nationale pour un certain nombre d'articles. Alors, quand on en est là, mon espoir est très très faible que le Conseil constitutionnel fasse ce pourquoi il est fait, c'est-à-dire faire respecter la Constitution. On verra. Mais je voulais insister là-dessus parce qu'on est dans cette mécanique, une mécanique fausse, parce que tout simplement, comme l'a dit le président après les premières réactions à son projet, « Ah, mais je l'avais mis dans mon programme. » Alors, tu l'avais mis dans ton programme, mais tu n'avais pas dit que tu violerais la Constitution pour y arriver. Donc, tout ça, ça s'inscrit au débit de M. le président de la République et de son équipe, c'est-à-dire passer en force, quelles que soient les entorses avec la loi, quels que soient les bricolages avec la loi, quels que soient les compromissions d'éventuels dirigeants du Conseil constitutionnel. Tout ça fait beaucoup, tout ça fait beaucoup, tout ça pèse dans la mentalité, dans la réaction des Français, dans leur grande majorité, par rapport à cette façon de faire de la politique dans cette République qui se voudrait ou qui s'affirme démocratique. J'en ai dit assez là-dessus. L'affaire n'est pas finie, elle continue, il y aura encore des manifestations. Il y en a une de programmée samedi.
Est-ce que pour l'âge de la retraite, par exemple, on peut utiliser le 49.3 ? J'aimerais savoir.
Non, il pourrait après. Non, in fine, il pourrait, non, après. Mais là, c'est le 47.1 qui passe. C'est le 47.1 qui passe, oui. Alors, dernier point quand même sur l'âge de la retraite. Le projet, donc, c'est 64 ans. Mais il faut savoir qu'il y a une possibilité ensuite, qui a d'ailleurs été évoqué par Mme Borne, qui consiste à dire la loi sur le passage progressif aux 170 trimestres, vous savez qu'on va passer de 135 à l'origine à 170, on peut accélérer sa mise en place. C'est-à-dire que ça pourra aller beaucoup, beaucoup plus vite pour accélérer, pour arriver aux 170 trimestres. Alors ça, c'est la surprise, c'est la pochette surprise, c'est le cadeau après le vote, si le vote y a lieu, de cette première partie. On dira, ben, en fait, c'est dès 2030, je crois, enfin, on peut accélérer beaucoup le rythme, et je pense qu'elle ne se gênera pas pour le faire, sauf si, effectivement, le mouvement populaire l'oblige à le faire, et si... Peut-être une réaction des partis politiques, on peut espérer qu'il y en aurait une quand même par rapport à ça. Bien. Mais on sait déjà qu'est-ce qu'elle va faire. C'est-à-dire il y a non seulement l'âge, mais il y a en plus la diminution du nombre d'années pour arriver aux fameux 170 trimestres. Et donc, en fait, ça risque de toucher des générations beaucoup, beaucoup plus rapidement que dans le cas précédent. Alors, je rappelle aussi, pour bien faire comprendre que les intérêts de M. Juppé et de son parti politique, la droite, et les intérêts de M. Fabius et de son parti, le Parti socialiste, sont totalement convergents, parce que ce que je vous explique sur le dispositif d'accélération du nombre de trimestres, trimestre, c'est un dispositif de Madame Marisol Touraine dans le gouvernement de Monsieur Hollande. Bon, donc tout le monde, enfin tout ce monde-là y est pour quelque chose. Retenez bien ça. C'est ça qui est important. Il y a collusion autour d'un espèce de centre mou qu'on pourrait intégrer comme le parti de Monsieur Bayrou, quelque chose comme ça. Mais cette droite-là et cette gauche-là travaillent dans le même sens pour détruire la sécurité sociale. C'était ça que je voulais dire. Et ce n'était pas tout à fait inutile que ce le fût. Bien. Voilà. Ceci dit, on va parler... Alors, je voulais chanter à l'antenne, mais ça ne se fait pas. Mais vous connaissez tous, sans doute, Chantal Goya. Et vous savez qu'il y a quelques années, elle chantait une petite chanson où il était question. Ce matin, un lapin a tué un chasseur. C'était un lapin qui avait un fusil. Vous vous souvenez peut-être de ça.
C'est ça.
Bon, eh bien, le lapin, on sait qui c'est aujourd'hui, puisque depuis 8 jours, le lapin, c'est l'animal fétiche de la Chine, puisqu'elle est rentrée dans l'année du lapin.
Hein. Oui.
Bon. Et donc, voilà, il se trouve que ce lapin-là, le lapin Lachine, ben décidément, il a un fusil. Il a un fusil. Et donc, effectivement, peut-être le chasseur va mourir. Alors, je peux vous dire que le chasseur crève de peur depuis qu'il sait ça. Alors, pourquoi le chasseur crève de peur? Parce que le lapin lui a envoyé un ballon. C'est trop beau. Le lapin lui a envoyé un ballon. Et alors, quand le chasseur a vu arriver le ballon, il a dit « Ouh là là, mais c'est pas un ballon, c'est une mitraillette !» Et donc... Alors, il faut voir, enfin, on n'imagine pas, enfin, je n'ai pas fait attention à ce que disaient les grands médias français, mais aux États-Unis, on est entre vendredi et hier, une espèce d'hystérie collective. Comme s'il y avait un bombardement atomique en préparation. Alors, tout le monde y est allé de son commentaire, etc. Bien entendu, heureusement, la glorieuse armée des États-Unis est allée détruire le ballon. Ultime victoire du chasseur, qui chasse des ballons à défaut de chasser des lapins. Le lapin, il l'a raté parce que le lapin a bien confirmé, ça a même été dit par un très haut responsable du Pentagone, il s'agissait bien d'un ballon d'observation météorologique, comme il en circule des centaines dans le ciel, que les courants aériens, alors c'est pas automoteur, hein, un ballon, ça circule très très haut dans la stratosphère, et c'est soumis à des vents dans la haute stratosphère, et ça se balade. Ça peut se présenter au-dessus des États-Unis.
Alors il y en a un en Amérique latine aussi.
Voilà. Alors, là où c'est rigolo, c'est qu'en fait, après, on vous dit, alors, dans cette hystérie collective, ils sont venus photographier nos installations militaires. Regardez ce qu'il y a dans le ciel comme appareil de photo dans des satellites qui volent, qui font le tour de la Terre à longueur d'année. Il y en a des Chinois, il y en a des Russes, il y en a des Américains, il y en a d'autres, il y en a même quelques Européens. Bon, mais donc tout est photographié tout le temps. Y a pas... Alors donc se déchaîner en disant le ballon était venu pour espionner les installations militaires, ils se disent, c'est délirant, mais ça montre l'espèce de crispation nerveuse de la couche dirigeante aux États-Unis, puisque M. Blinken, le secrétaire d'État, a tenu prétexte de cet incident pour dire qu'il n'irait pas à Pékin. Pékin prend ça avec tranquillité en disant, attention, d'abord, c'est pas très correct, vous n'avez pas à crever ce ballon qui ne vous faisait rien, hein, mais on va pas monter au niveau d'hystérie où vous êtes, vous, c'est ça que je veux dire, parce que c'est pas la peine. Hein, nous, on essaye au contraire de trouver des terrains de compréhension, d'échange, etc. Bon, je sais pas s'ils vont être écoutés. Sans doute, parce que les généraux des États-Unis qui ont dit, ben non, c'est un truc classique, il y en a d'autres, et puis nous, on envoie aussi des ballons, etc. Bon, ils vont pas dans le sens de la catastrophe. Mais c'est le monde politique et le monde médiatique qui exagèrent beaucoup. Alors, à propos de ballons, deux petites anecdotes pour compléter. Le principal fabricant de ces ballons stratosphériques, c'est quand même un petit peu compliqué à faire, c'est une usine de caoutchouc chinoise qui domine aujourd'hui le marché mondial. Et elle en vend partout. Alors, je trouve ça très rigolo parce que, aussi bien, la semaine prochaine, il y aura un ballon venu du Venezuela qui va arriver sur la frontière sud. Et puis, il y aura des ballons même venus d'Afrique. Alors, il faut savoir que cette société de caoutchouc chinoise vend des ballons à presque tous les pays d'Afrique qui s'en servent.
Ils sont pas chers,
ils s'en servent pour faire des observations météo, comme tout le monde. Et donc, imaginez qu'un ballon congolais traverse et arrive sur la côte de la Floride, on aura encore un nouveau cas d'hystérie états-unienne. Bon, arrêtons là. Alors, quand même, si, il y a une dernière chose qu'il faut savoir, c'est que l'habitude, et ça pas été beaucoup dit, au moins par les officiels des États-Unis, c'est que pendant la guerre dite du Pacifique, les Japonais ont utilisé abondamment les ballons de ce type-là, et ils ont beaucoup surveillé, même beaucoup survolé la côte ouest des États-Unis. Et là, ça les avait vraiment mis situation d'inquiétude parce qu'il n'y avait pas de satellite artificiel. Donc effectivement, la seule façon que le Japon pouvait avoir connaissance des préparatifs, par exemple, d'embarquement de bateaux de guerre depuis les côtes du Pacifique des États-Unis, c'était par ce moyen-là. Et donc, ils ont utilisé des milliers de ballons pendant la guerre du Pacifique. Alors ça, c'est peut-être... Enfin, il n'y a que les gens qui connaissent l'histoire militaire qui s'en souviennent, mais ça a eu une utilité. Aujourd'hui, il y a tellement de satellites dans l'air. Vous savez qu'un satellite est capable d'arriver à des photos par satellite à des niveaux de définition de la taille d'une boîte d'allumettes. Donc, ouais. Il n'y a pas grand-chose à cacher. Bon. Arrêtons-nous là-dedans. C'est simplement intéressant de noter l'état de fébrilité intellectuelle de cette couche dirigeante des États-Unis qui sent bien que les affaires lui échappent. Bien. Puisque j'en suis à parler quand même de la Chine, quelques mots pour parler du budget militaire. Là, ça a du sens de parler du budget militaire de la Chine, parce que c'est un thème qui est mis en avant dans les campagnes, en disant comme si ce ballon-là avait été militaire, ce qui n'était pas. Mais le thème des dépenses militaires de la Chine est un thème qui, à juste titre d'ailleurs, préoccupe les militaires des États-Unis. Bon, alors il faut savoir que depuis 20 ans, en gros depuis 2000, le budget militaire de la Chine a été multiplié par 10. Alors là, on va vous dire, ah, mais ça devient très, très inquiétant. Alors, il y a deux éléments de réponse. D'une part, après avoir été multiplié par 10, il arrive aujourd'hui à atteindre le quart du budget militaire des États-Unis. Il n'a pas atteint le budget, loin s'en faut. Alors, je ne ramène même pas ce chiffre au budget par tête. Ça, on diviserait encore par 4. Bon. Donc, on n'en est pas encore à la parité en termes de budget. On en est loin du compte. Mais il faut savoir... Alors, on dit qu'ils ont quand même fait un gros effort militaire. Oui, mais les Chinois sont très, très raisonnés, très posés là-dessus. Ils disent, écoutez, nous faisons grandir le budget de notre défense à mesure de la croissance du budget de notre économie. C'est-à-dire que dans les 20 années où pratiquement tous les ans, la croissance économique du produit intérieur brut chinois s'est située entre 6 et 10%, quelquefois même au-dessus de 10, le budget militaire a tout simplement suivi. Jamais il n'est allé bien au-dessus, au point qu'aujourd'hui, le budget militaire de la Chine, c'est de l'ordre de 2% du PIB. Donc rien à voir avec les États-Unis. Et donc ça s'explique très bien. Le budget militaire de la Chine, s'il a été multiplié par 10, alors c'est le chiffre qu'on vous jette dans les oreilles pour vous faire frémir, eh bien, il a simplement suivi le niveau de la croissance économique du pays. Il n'a pas mangé tout le reste, il ne s'est pas imposé au détriment d'autres dépenses sociales, économiques, environnementales et tout. Non, il a pris sa place dans le processus général de croissance de l'économie chinoise. Non, il n'a pas écrasé. Et donc les Chinois n'ont à aucun moment été victimes d'une espèce de frayeur qui les aurait amenés à mettre beaucoup, beaucoup d'argent dans la défense et à oublier de nourrir leur population. C'était ça l'enjeu. Mais il n'y a pas eu d'enjeu parce qu'ils ont dit, voilà, on fait ça, on suit, on a les moyens. Alors en plus, comme ils ont, pendant ces 20 années, construit une industrie de plus en plus performante, ils ont aujourd'hui des matériels militaires performants, pointus, avec de l'électronique, avec tout ce qu'il faut dedans, ce qu'ils n'étaient pas capables de faire il y a 20 ans. Et ça s'est tellement vérifié que l'année dernière, tous les ans, vous savez, il y a un institut suédois qui fait les statistiques des budgets militaires des différents États et des exportations d'armes. Et la Chine a pris, c'est la première fois de son histoire et de l'histoire de cet organisme qui s'appelle le CIPRI, la deuxième place mondiale. Parce qu'aujourd'hui, ils produisent des armements compétitifs, de bonne qualité, au niveau des meilleurs standards internationaux. Et donc, ils ont des clients. Alors, ils sont encore loin des États-Unis qui ont 45% du marché mondial, mais ils ont trouvé une place naturelle, sans faire plus d'efforts que ça. Ils ont de bons produits adaptés, de bons niveaux, et ils ont des clients. Il n'y a pas de souci. Tout ça pour ramener les choses à leur juste proportion. Parce que si on vous agite, et je l'ai entendu sur des radios publiques, le budget militaire de la Chine a été multiplié par 10. Alors vous frémissez, vous dites, oh là là, ça va mal se terminer. Ben, pas du tout. C'est tout à fait maîtrisé et ça suit exactement le mouvement général de l'économie chinoise. Voilà, c'est dit. C'est dit. On va vous parler d'autre chose. Parce que, alors, on va passer un certain temps à vous parler de ce qui s'est passé, donc, du tremblement de terre qui a eu lieu. Donc, c'était entre le matin de la journée d'hier et les répliques qui ont eu lieu le soir. Donc, ça a touché principalement parce que l'épicentre est dans le sud-est de la Turquie, et ça a touché le nord-ouest de la Syrie et des villes comme alors Alep, Latakia, et quelques autres que vous connaissez, Tartous, voilà, jamais, oui. Beaucoup. Ça, on en parlera tout à l'heure, on aura une invitée à l'antenne.
C'est ça, exactement. Hein.
Mais il faut que vous sachiez qu'il s'agit d'un événement important. Hein, donc, sur l'échelle de Richter, on est à 7, 8, 7, 9, c'est très très élevé, donc les immeubles s'effondrent, tout est cassé, et il y aura d'énormes dégâts. En quantité de morts, c'est pas monstrueux, c'est pas la bombe atomique, mais en même temps, il y a énormément de casse au niveau matériel. Il y a des quantités d'immeubles qui sont ou détruits sur le coup, ou bien en voie de s'écrouler dans les jours suivants, ou qu'il faudra détruire parce qu'ils sont fissurés, lézardés, etc. Hein, donc, énorme travail de reconstruction à prévoir. Mais on va y revenir tout à l'heure. Je vais vous parler maintenant de différentes choses qui se sont passées en Afrique. En Afrique, pour vous parler d'une réunion qui est très très intéressante et nouvelle dans son contexte et dans son climat, qui est une réunion du Premier ministre, du nouveau Premier ministre du Burkina Faso, qui est allé rendre visite à son voisin, le Premier ministre du Mali. Et qu'est-ce qu'il est sorti de ça? Alors je le résume, mais c'est très très intéressant. Ils sont aperçus, ces deux pays voisins, depuis longtemps et dès l'origine, qu'ils avaient des intérêts communs. Ça alors, ils avaient des intérêts communs. Et il y a la liste dans le communiqué commun. Effectivement, on a des productions analogues dans l'or, dans le coton, dans des tas de choses comme ça. Et au fond, si on se mettait tous les deux ensemble sur le marché, on aurait une force commerciale bien plus importante que si chacun y va tout seul. Ça paraît élémentaire, évident. Oui, oui. Pourquoi cette évidence ne s'est jamais imposée aux dirigeants africains? Parce que dans le système colonial, chaque dirigeant africain prenait ses ordres à Paris. Et il ne parlait surtout pas à son voisin. Et jamais il a été question de se rencontrer entre voisins si on faisait des choses ensemble. Alors s'il y a eu des tentatives, par exemple, d'unification du Sénégal et du Mali, bon ça a été cassé par le colonisateur, on voulait que chacun soit dépendant. Il faut bien se rendre compte que dans ces pays-là, c'est un peu moins vrai maintenant, mais les gens bougent plus, il y avait des endroits, moi je l'ai vécu, non pas en Afrique, mais à la Guadeloupe. C'est-à-dire qu'en fait, quand l'avion de Paris arrive, tous les gens qui sont là pour attendre ceux qui sortent de l'avion de Paris, ils attendent la vérité venue du bon Dieu de Paris. C'est ça qui se passe. Hein. Même chose, je pense, sur l'avion Paris-Abidjan. À la sortie de l'avion Paris-Abidjan, on sait ce qui va arriver à la Côte d'Ivoire dans les 6 mois qui viennent. C'est pas dans le gouvernement local que ça se passe. Alors, ça a été tenté justement par Laurent Gbagbo. Mais autrement, c'était ça. C'est l'avion de Paris. C'est par là que le sang coule. C'est par là que la vérité tombe. Et donc, ce que fait ce petit rapprochement, qui a l'air de rien, on est entre voisins, on a une économie assez semblable, des conditions climatiques qui, dans beaucoup d'endroits, se ressemblent, et on peut faire un travail industriel, minier, de la même sorte. Et donc, on va se serrer les coudes. Et à partir du moment où on met en place ce genre de relation horizontale, la relation avec Paris devient effectivement beaucoup moins importante et moins intéressante, puisqu'on se met d'accord avec, on compte sur nos capacités, nos forces, nos enseignants, nos formations, nos ingénieurs et tout. On va choisir des gens qui nous aident là où bon nous semble. Et puis, on n'attend pas que Paris nous dise qu'il faut travailler avec Pierre, Paul et Jacques et faire travailler Thiel. Non, non, on discute, on est formé, on a fait des études, etc. On n'est pas des imbéciles hein, et on a décidé de ne plus prendre, j'allais dire, comme on disait, je ne prends plus au souffleur. Vous savez, dans les théâtres anciens, il y avait un trou à l'avant de la scène où le souffleur était là avec le texte de la pièce et si jamais le comédien, il lui manquait un verre dans une tragédie de Racine, il était là. Eh bien, Paris, c'était le souffleur, c'est-à-dire que le gouvernement allait au souffleur. Qu'est-ce que je dois dire? Eh bien, c'est fini. Ils se parlent, ils se comprennent et, extraordinaire, ils sont même intelligents. Oh là, où va-t-on? Mais où va-t-on? Bon, voilà. Mais c'est très bien. Alors, il y aura d'autres signes, mais là, c'était récent, c'est l'actualité. Il y aura d'autres signes, c'est-à-dire sortir ces 54 pays d'Afrique, divisés en petits morceaux. Alors, il y a des petits et des gros morceaux. Il y a le Congo, il y a aussi le Bénin à côté. Bon, sortir de ces relations avec les chefs, avec les maîtres du monde, et se parler entre nous, parce qu'après tout, j'insiste là-dessus, en Afrique aujourd'hui, il n'y a pas plus d'habitants dans 54 pays qu'il n'y en a dans un seul pays, la Chine. Ça change quand même. Et si la Chine a pu aller si vite dans sa rénovation, même sa résurrection industrielle, c'est parce que c'était un seul pays et qu'on a regroupé tous les efforts et que c'était plus facile. Mais l'Afrique peut très bien, maintenant qu'elle a compris, dire on se rapproche, on se comprend, on se parle hein, et on met tout en commun parce qu'on a un avenir commun qui est un bel avenir et on peut leur souhaiter. Bien. C'était pour un petit chapitre africain. Alors, le petit chapitre israélien, il est toujours aussi triste. C'est-à-dire que je donne un chiffre. Depuis le 1er janvier de 2023, en 37 jours, l'armée israélienne a exécuté 47 Palestiniens. Voilà.
Un gouvernement fasciste.
Voilà. Donc, dont 7 hier, je crois, ou avant-hier à Génine. Voilà. Ouais. Donc, c'est tous les jours. Ça va des enfants de 12 ans à des plus âgés, mais pas très âgés. Donc, là, c'est la chasse. La chasse est ouverte. Et vous savez, et j'espère que vous avez pu voir des photos, mais essayez d'en voir, ça ne doit pas être difficile, que les colons ont désormais le droit de porter des armes dans la rue en permanence. Et ils ne portent pas des pistolets à bouchon, je peux vous le dire. Hein, ils ont en bandoulière des AK-47 de dernier modèle. Hein. Ouais. Donc, ils sont prêts à tuer instantanément, tout le temps.
On leur a donné le permis.
Voilà, ils ont le permis. C'est un permis de chasse. C'est un permis de chasse. Vous pouvez... Il ne vous arrivera rien. Bon. Ça, c'était une chose à bien souligner. Ensuite, un petit mot. Alors, on va passer vite dans l'Amérique latine pour dire que, ça c'est une bonne nouvelle aussi, il y a eu des élections locales accompagnées d'un référendum en Équateur. Alors, vous savez qu'en Équateur, c'était la surprise mauvaise qui avait eu lieu il y a 2 ans, c'était l'élection d'un banquier président, ou d'un président comme banquier, ou non, d'un banquier comme président.
Comme président.
Non, voilà. Qui n'a pas eu beaucoup de succès, puisque les élections locales qui viennent d'avoir lieu ce dimanche ont montré que la coalition, donc, qui sont rassemblées autour de l'ancien président Rafael Correa, avait gagné ces élections locales et que le référendum proposé par le président Lasso, donc le banquier en question, pour améliorer la constitution dans le sens d'un plus d'autorité du président sur le pays, avait été repoussé. Donc c'est un très grave échec pour le gouverneur, pour le président Lasso. C'est très encourageant pour la suite des événements pour l'ancien parti de Rafael Correa, qui, je rappelle, est toujours en exil et il est menacé de mort quand même. Bon. Et donc il y a une évolution très très intéressante en Équateur dont on verra les signes, les manifestations dans les semaines qui viennent. J'en reparlerai sûrement. Alors, on est dans les petites nouvelles encore. Mais des petites nouvelles assez intéressantes aussi. Là, ça touche le continent européen. Il faut savoir qu'une nouvelle fois, le président serbe a été obligé tenu de s'exprimer sur la question des relations de son pays avec l'OTAN. Et là, il a été particulièrement clair, puisqu'il a dit « il n'est pas question que notre pays rejoigne l'OTAN ». Que les affaires soient claires. Et il a quand même un petit peu, si c'était nécessaire, rafraîchi la mémoire en disant « souvenez-vous, il n'y a pas si longtemps, c'était en 1999, donc ça fait 24 ans maintenant, l'OTAN est venue nous bombarder. L'OTAN nous a bombardés sans que le Conseil de sécurité de l'ONU ait quoi que ce soit à nous reprocher, et surtout n'ait pas autorisé ces bombardements-là. Bon, l'attaque de l'OTAN, l'attaque militaire aérienne, les bombardements de l'OTAN ont duré 79 jours. Des dizaines de milliers de tonnes de bombes ont été déversées sur la Serbie. Des civils sont morts, des installations industrielles ont été abîmées, des pollutions industrielles ont eu lieu dans le Danube. Enfin, il y a eu tout ce qu'il faut pour montrer que, effectivement, l'OTAN a été violente, agressive et très contente de faire ce qu'elle faisait. Donc, le président actuel a beau jeu de rappeler en disant bah, écoutez, on n'a pas confiance en ces gens-là parce qu'ils n'avaient aucun droit de faire ce qu'ils nous ont fait. Ils l'ont fait. On s'en souvient encore, on n'a pas la mémoire si courte. Alors, ça, c'est bien, mais j'allais dire. On s'y attendait de la part des Serbes, parce qu'ayant souffert ça, puis connaissant l'orientation politique générale des Serbes, ce n'est pas une surprise, c'est seulement une confirmation. La surprise est venue d'un autre endroit, et là c'est une très très bonne surprise. C'est-à-dire que le président croate lui-même en exercice, a dit que l'Union européenne faisait fausse route dans le soutien qu'elle apportait au gouvernement ukrainien. Et il a souligné que la position à laquelle il se ralliait, lui qui est membre de l'Union européenne, ce qui n'est pas le cas de la Serbie, était semblable à celle qu'ont prise récemment la République tchèque et la Hongrie en disant que l'Union européenne n'avait pas à s'engager dans la guerre contre la Russie en Ukraine. Bon. Et là, du point de vue politique, c'est beaucoup plus important parce que la Croatie, je le rappelle, au moment de l'éclatement de la Yougoslavie, la Croatie, elle était le plus fort allié des Américains et des Allemands pour faire éclater la fédération yougoslave. Et bien, ça, ils commencent à comprendre, bien qu'ils soient... Bon, ils sont dans l'OTAN maintenant, ils sont dans l'UE, mais ils commencent à dire on ne peut pas faire n'importe quoi sous prétexte qu'on est dans votre équipe. Parce que cette équipe, de toute façon, elle est traversée et elle va l'être de plus en plus de contradictions extrêmement fortes entre, d'un côté, les pousses au crime va-t-en-guerre, comme les Polonais, les Républiques baltes et quelques autres, sans parler de l'Allemagne, et puis ceux qui disent cette Union européenne, elle suit un drôle de chemin. D'abord, elle se soumet à des sanctions qui lui coûtent très très cher. Elle a une fragilité économique reconnue, avec des taux de croissance extrêmement faibles. Elle manque d'énergie. d'énergie au sens des ressources énergétiques. Donc l'Union européenne est peut-être en train de prendre un mauvais chemin, et ce mauvais chemin, il est tracé par les deux principales puissances aujourd'hui économiques, qui sont la France et l'Allemagne. Donc on a une espèce de rupture de l'unité, de façade de l'unité de l'Union européenne entre les gros, deux gros, il n'y en a plus que deux gros, l'Italie venant faire un petit troisième, et puis le reste, la valtaille européenne, ceux à qui on dit c'est comme ça. Eh bien, ils sont en train de dire, ben, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça, là où on ne veut pas aller, on n'ira pas. Et donc ça devient très très intéressant. Dernière chose sur laquelle je voulais m'appesantir avant qu'on parle de la Syrie, mais je ne sais pas si on... Non, qu'est-ce qu'on pense ? On reparlera de Stalingrad après, avec les enregistrements, parce que là, il y en a pour plusieurs minutes. Hein. Ouais. Alors seulement, je fais une introduction. En fin d'émission, on va essayer de passer quelques extraits de l'enregistrement que j'ai fait moi-même à l'occasion d'une manifestation qui est la seule manifestation ayant eu lieu en France, à ma connaissance, qui a eu lieu donc, ce week-end à Paris. Et au cours de laquelle, donc, il y a eu des prises de parole pour expliquer ce que c'était que Stalingrad et lui donner sa signification politique. Et puis ça s'est terminé tout à fait normalement par un dépôt de d'œillets rouges, hein, d'une gerbe de fleurs, au pied de la stèle commémorant la victoire de Stalingrad, qui se trouve donc au square Stalingrad à Paris. J'insiste là-dessus parce que ça a été dit par un des orateurs, le square Stalingrad à Paris a été plusieurs fois menacé d'être débaptisé, parce que ça ne fait pas propre de parler de Stalingrad. En plus, maintenant, la ville ne s'appelle même plus Stalingrad, elle s'appelle Volgograd, etc. Bon, alors donc, il s'agit d'une petite stèle qui doit faire en gros 1 mètre carré, pas plus que ça, avec une inscription à la mémoire des millions de morts, des 27 millions de morts de la Grande Guerre. Et puis, quelques fleurs. C'est tout, c'est pas plus que ça. Alors, le son n'est pas bon, vous entendrez, parce qu'on est sous le métro aérien et en pleine circulation, donc il peut y avoir des voitures de pompiers, etc. Mais j'ai sélectionné quand même 3 petits morceaux qui ont de l'intérêt et du sens politique. On essaiera. Enfin, si on n'arrive pas à les passer cette semaine, on les passera la semaine prochaine. De toute façon, et j'en termine sur le sujet, demain soir, l'émission mensuelle sera consacré à la bataille de Stalingrad et à son sens dans l'histoire générale. Donc là, on aura le temps d'expliquer comment l'armée hitlérienne nazie est arrivée jusqu'à Stalingrad, pourquoi, qu'est-ce qui s'y est passé et quelles ont été les conséquences du retour dans l'autre sens, c'est-à-dire de l'armée rouge allant jusqu'à Berlin. Et je le dirai demain soir. Voilà, on n'en dit pas plus. Alors maintenant, on va vous parler donc des suites du tremblement de terre en Syrie, de deux façons. D'une part, Habib qui est là, et donc qui, vous le savez, est président, fût-il d'honneur, de l'association de solidarité franco-syrienne dont le siège est à Marseille, les initiatives qu'il a prises. Et puis on appellera un peu plus tard une autre Syrienne qui est installée en France et qui nous donnera une vue générale sur ce que ça veut dire un séisme et une catastrophe naturelle de cette ampleur-là dans un pays soumis à un embargo redoutable et violent. Donc, vas-y, on commence par toi, Habib, vas-y.
Alors, voilà, je voulais simplement dire qu'on a envoyé un petit SMS au père Elias Zahlaoui. Et puis, pour lui dire un petit peu qu'on était très inquiet sur la situation de ce qui se passe en Syrie. Alors, je vais vous le lire. Voilà. Alors, le père Zahlaoui. Voilà. Voilà, j'ai dit bonsoir, père Elias. Je suis très inquiet pour ce qui est arrivé au peuple syrien. Je suis en train d'organiser et de lancer l'aide humanitaire à Marseille. Et en même temps, j'ai contacté aussi le fonctionnaire d'État syrien à Paris, dont je lui ai fourni toutes les informations nécessaires pour créer une cagnotte. Bon, j'ai dit au père Zahlaoui que j'étais très, très déçu des pays européens et américains, le Canada, l'Australie, le Japon, tous qui sont reliés aux États-Unis. Alors, bien sûr, il y a eu énormément de morts en Syrie. On est arrivé à un chiffre actuellement, je crois, vers le 600. Et j'ai dit que malheureusement, dans les pays européens et tous ces pays, ils ont plus mentionné de ce qui s'est passé sur la catastrophe tremblement de terre, particulièrement en Turquie, bien sûr, même le peuple turc nous touche aussi. Mmh, on est très solidaire avec lui, mais aussi une solidarité avec le peuple syrien qui ont subi le même sort. Et donc j'ai dit au père Zahlaoui, je suis très déçu, soi-disant les pays européens, américains, tout ça, qui défend le droit de l'homme, la démocratie, la liberté de l'expression. Et puis bon, le père Zahlaoui me répond.
On va l'écouter.
Hamid, bonsoir. Vous êtes vraiment naïf. Vous croyez encore à un sentiment humanitaire de la part de l'Europe et de la part des États-Unis, tout autant que du Canada et de l'Australie, du moins au niveau des responsables. Malheureusement, au niveau des peuples, ils ont été tellement façonnés, tellement refabriqués, que beaucoup de gens européens maintenant se moque du reste du monde. Chacun pense à soi. L'Europe a beaucoup à faire pour redevenir tant soit peu humaine, tant soit peu. En tout cas, merci. Dites bonjour à Bernard, à Roseline. Nous restons toujours en contact et nous gardons toujours confiance.
Maintenant, donc, je vais passer directement, je vais téléphoner à Madame Aïssar Midani, qui va certainement nous expliquer et donner plus de...
Les difficultés de la, des opérations humanitaires.
Des opérations, voilà. Alors, Madame Aïssar Midani, voilà.
Qui est donc une scientifique syrienne installée en France.
Oui, oui. Voilà, donc on va être en communication avec Aïssar. Oui, Madame Aïssar, voilà, je vous passe le micro. Madame Aïssar, s'il vous plaît, ouais, ne dépassez pas plus de 5-6 minutes parce qu'on est limité à la radio. Voilà, alors on vous écoute.
Oui, alors bonjour. C'est qui? C'est Bernard, là?
C'est Habib.
Je suis à côté.
Il est à côté.
Oui. D'accord. Alors, pose-moi la question. Qu'est-ce que tu veux que je...
Ben.
Allô?
Oui. Alors, la question...
La question, c'est les difficultés de la reconstruction et de l'intervention humanitaire dans un pays sous embargo sauvage, brutal. Voilà.
Alors, écoutez...
Et vous parlez fort, hein, madame? Oui.
Une très grande catastrophe en Syrie. Vous m'entendez bien?
Oui, parlez plus fort. Hein.
Allô? Vous
oui.
M'entendez bien?
Oui, oui.
D'accord. Et comme ça, ça va bien. D'accord.
C'est bien.
Alors, donc, on vient d'être frappé par un grand séisme. Et bien sûr, des catastrophes, c'est une catastrophe. Des immeubles se sont... effondré. Alors, ça a touché. Alors, il faut savoir que le centre du séisme, c'était au sud de la Turquie, plutôt, du côté de Gaziantep, du côté de Hatay, qui est le Sanjak d'Alexandrette, en fait, qui est la partie de la Syrie qui a été donnée ou piquée par les Turcs. Hein. À la Syrie et qui leur a été donné donc par la France sous le mandat. Bon, là, ce n'est pas le propos, mais pour vous dire que c'est une grande catastrophe naturelle. Des immeubles entiers se sont effondrés. Il y a des centaines de personnes sous des décombres. Il y a des centaines de morts, centaines de blessés, des milliers de blessés. Ce qui rend très difficile la Le sauvetage, les opérations de sauvetage, c'est aussi cet embargo, ce blocus contre la Syrie qui date depuis 2019 par le Code César et maintenant renforcé par la loi dite Captagone, ou bien sûr qui sont tous les deux basés sur des accusations sans aucune preuve par les Américains, qui aussi par le fait de l'extraterritorialité des décisions américaines imposent la même chose à toutes les compagnies qui traitent avec les Américains. Donc on n'a pas la possibilité d'avoir des remorques, des grandes grues, des outils de manutention et des grandes un équipement de manutention qui permet de soulever les bétons, les plaques de béton qui se sont effondrées sur la tête des habitants. Hier, dans la nuit, il y avait énormément d'habitants qui étaient sous les décombres. Et donc, les gens dans plusieurs villes et villages essayaient de soulever ça avec les mains. Heureusement, la solidarité internationale s'est mise en route. Bien entendu, sont exclus les pays comme les États-Unis et puis les pays de l'OTAN qui continuent à mener leur campagne contre Assad et contre la Syrie. Mais par contre, effectivement, on a nos amis russes qui ont dépêché très vite deux grands avions Ilyushin 76 qui ont déjà commencé à travailler dès hier avec des grandes aides humanitaires et puis surtout des hôpitaux de campagne. Et puis surtout des aides de secours, de premier secours, des couvertures, etc. Parce que des centaines, voire des milliers de personnes se sont trouvées à l'air avec leur maison détruite, alors qu'il fait moins 1, moins 2 degrés à Alep. Et ce n'est pas seulement à Alep, c'est toute la région nord et jusqu'au centre de la Syrie, donc Alep, Hama. L'attaqué qui a été aussi prise de plein fouet, Hama, des immeubles ont été détruits sur la tête de leurs habitants, ainsi que Homs. Alors je voudrais dire aussi, la sœur du premier ministre syrien a été tuée sous les décombres à Homs avec un nombre de ses enfants et ses petits-enfants. Il est important de voir quand même aujourd'hui comment les secours peuvent arriver à la Syrie. L'Algérie a été un des premiers pays à répondre présent aussi. Des équipes de sauvetage sont arrivées en Syrie, algériennes, expérimentées. Des équipes, les Iraniens ont dépêché ce matin. Un avion iranien est arrivé aussi, qui est plein de vivres et des... de premiers secours et de secours médical et de vie et puis des tentes, etc. Nos amis irakiens, les Irakiens ont fait une sorte de pont aérien entre l'Irak et la Syrie parce que eux aussi la terre a tremblé chez eux. Il faut savoir que c'est les répercussions de ce grand séisme continuent jusqu'à maintenant. D'ailleurs, il y a eu plusieurs répercussions toute la nuit et toute la journée aujourd'hui. On parle de 58 répercussions quand même qui ont eu lieu. La terre continue à trembler, mais avec une capacité beaucoup moins importante quand même, parce qu'au début c'était du 7.8 à l'échelle de Richter. Maintenant c'est beaucoup moins important, donc c'est moins grave, je dirais. Et des répercussions se sont fait sentir jusqu'au Liban, même jusqu'à Damas. Mais c'est la situation est dure, elle est très dure, et tout ceci s'accompagne aussi de grands orages, des pluies diluviennes et un froid très très important. Donc comme je disais, c'est moins 2, moins 3, moins 5 degrés, moins 15 degrés, ça dépend des régions.